des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisque nous recevons l'un des plus grands écrivains contemporains, mieux le pharaon des lettres en personne, l'auteur du succès mondial L'immeuble Yacoubian, l'écrivain qui en 2011 haranguait les foules sur la place Tahrir contre Moubarak, auteur engagé s'il en est, mais qui tient à continuer à exercer son activité de dentiste, un cas décidément que l'écrivain égyptien Ala El Aswani. Bonjour Ala El Aswani.
Bonjour, merci.
Très heureux de converser avec vous. Heureux, merci. Alors, je disais toujours dentiste, votre cabinet est même situé dans votre maison du quartier du 6 octobre, donc à une trentaine de kilomètres du Caire, juste au-dessous de votre bureau d'écrivain. En quoi est-ce important pour vous de continuer à exercer ce métier de dentiste, alors même que vous êtes un écrivain mondialement connu?
Parce que ça aide beaucoup le romancier. Le dentiste a toujours aidé le romancier parce que vous avez toujours une expérience humaine chaque jour. Vous rencontrez des gens avec une diversité très intéressante. Souvent, quand je dis ça, les gens disent « Mais comment vous rencontrez les gens ?» Mais on parle jamais chez le dentiste. Dès qu'on entre chez le dentiste, il sourit, il dit « Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. » Ce qui est vrai, mais moi, je suis un peu différent.
Parce que, en fait, vous en profitez pour les faire parler, en fait.
Oui. Non, ouais. Moi, mes clients sont mes amis. On parle beaucoup. Souvent, ils viennent, ils disent « Mais... » On veut rien faire aujourd'hui, ça va.
Pour leurs dents.
Et alors, moi, je commande un café, on peut parler. Ouais. Vous voyez.
Oui, alors... donc c'est une façon d'exercer un petit peu particulière, parce que si les gens viennent chez le dentiste juste pour parler, ça relève plus du psy en fait que du
oui,
dentiste.
Oui, mais quand même, je soigne les dents quand même. Mais je vois les gens comme des êtres humains, ce qui est absolument lié à la littérature. Ouais. Ce sont pas seulement des patients, ce sont pas des clients, mais ce sont des êtres humains, et ça ajoute à mon expérience humaine. Même dans ce roman, j'ai décrit les ouvriers, par exemple.
Alors ce roman, c'est « J'ai couru vers le Nil », on va en parler, qui vient de sortir en France.
Exactement. Voilà. Moi, j'ai travaillé comme dentiste dans une usine au sud du Caire. Et je me suis rendu compte de la première semaine que je suis vraiment mal payé. Mmh. Et ça ne vaut pas la peine, comme dentiste. Mais j'ai continué à travailler pendant 6 ans. Parce que je me suis dit que c'est une expérience humaine très riche. Et peut-être un jour, je vais l'utiliser en écrivant un roman. C'est exactement ce que j'ai fait.
Donc en fait, c'est même un intérêt pratique que vous trouvez. C'est pas juste pour vous sortir de votre bureau d'écrivain pour penser à autre chose. Au contraire, vous pensez encore au roman quand vous êtes dentiste.
Absolument. Mais on doit faire attention ici parce que je n'utilise pas les secrets de mes patients pour écrire. Mais j'apprends. J'apprends comment les gens vivent, exactement, comment les gens réagissent.
Alors, il y a beaucoup d'écrivains médecins, c'est vrai, il y a une grande famille, je les cite, hein, Tchekhov, Schnitzler, Segalen, Bulgakov, Alfred Döblin, l'auteur de Alexanderplatz. Dans un autre genre, Louis-Ferdinand Céline. Est-ce que vous avez...
Il y a Somerset-Maugham, il y a Émile Zola.
Aussi. Est-ce que vous avez élucidé ce mystère des liaisons étranges qu'entretiennent la littérature et la médecine? Qu'est-ce qui, selon vous, réunit ces deux...
Non, c'est un phénomène que j'ai essayé de comprendre. Je pense que j'ai compris parce que je pense que la médecine et la littérature, ce sont deux aspects d'un métier d'humanité. Vous voyez, parce que
oui, mais
soit
tout l'est aussi. Hein. Il y a des professeurs, des journalistes.
Oui, mais il y a toujours ce qui est en commun entre les deux métiers, c'est la douleur humaine.
Ah voilà.
Vous voyez. Ouais. Alors vous, comme médecin, vous essayez de comprendre la douleur humaine pour la guérir, et pour un écrivain, vous comprenez la douleur humaine pour décrire la douleur, pour transmettre cette souffrance humaine. Alors, il y a vraiment un rapport, il y a une liaison entre les deux métiers, et ça ne m'étonne pas qu'il y a pas mal d'écrivains qui sont médecins, parce que aussi, c'est seulement chez le médecin que vous êtes vous. parce que vous avez une douleur. Vous voyez, chez l'avocat, par exemple, vous n'êtes pas, hein, vous n'êtes pas obligé de.
Bah, il faut dire la vérité à son avocat, voilà, normalement. Hein.
Mais seulement la vérité. Voilà. Mais seulement la vérité. Ouais. Moi, j'ai reçu à mon cabinet des ministres, des vedettes, des. Mais c'est toujours, c'est l'être humain qui reste parce que ils ont mal.
Et ça, c'est intéressant pour le romancier aussi.
Absolument.
De voir la différence entre le statut, par exemple, de ministre.
Absolument.
Et puis le corps, le simple corps aussi.
Absolument.
Le sang, la chair.
Je vous dis qu'une conversation que j'ai écrite là, c'est passée chez moi, à mon cabinet dentaire, avec un général.
Bah, parce quand que... même alors. Donc, quand même, ça se retrouve dans le
oui,
roman.
Oui, j'ai dit, j'ai posé la question, pourquoi vous torturez les gens? J'essaie tout le temps d'être poli, mais parfois c'est trop. J'étais en train de soigner les dents de ce monsieur le général qui travaillait dans la sécurité d'État où on torture les gens. Et j'ai dit, mais pourquoi vous torturez les gens, monsieur? Alors, il y avait un silence un peu. Et il a dit, monsieur, vous êtes musulman? J'ai dit, oui. Il a dit, alors, lisez votre religion. C'est exactement ce que j'ai écrit. Parce que son interprétation de la religion justifie la torture. C'est pas la religion quand même qui justifie, mais son interprétation. Mmh. Vous voyez. Alors, être dentiste, ça veut dire avoir cette expérience. Mmh.
Oui. Alors, on est avec vous en France, à la Soigny, pays dont vous parlez parfaitement la langue, les auditeurs l'entendent. Je voudrais savoir, juste parce que c'est vrai, c'est assez singulier aussi, auteur égyptien, comme ça, qui parle si bien la langue. Qu'est-ce que représente... vous avez appris le français en Égypte.
Au lycée, oui, au lycée français du Caire.
Au lycée français.
Ouais.
C'était par choix. Votre père était écrivain.
Était francophone. Ouais. Était écrivain, voilà. Avocat, francophone. Mon grand-père aussi, ma grand-mère, ma mère, tout le monde. mon épouse, les enfants et tout, parce que je viens d'une famille francophone. Ouais. En Égypte, la famille francophone, si vous êtes francophone, ça veut dire que vous venez d'une grande famille. Mmh. Parce que ce sont seulement les grandes familles qui ont gardé la tradition d'être francophone. Mmh. Alors, il y a vraiment une classe sociale francophone en Égypte qui a été à un moment donné la classe la plus éduquée et la plus riche. Maintenant, c'est seulement la plus éduquée. Parce que les gens qui sont plus riches, ils ont une tendance à l'américaine. Vous voyez, à une éducation américaine.
Et qu'est-ce que représente justement la France, ce pays dont l'histoire est pleine d'écrivains engagés?
Oui.
Comme vous, au fond, dans le combat politique.
Oui.
Comme écrivain.
Non, la France, pour moi, c'est la grande culture. C'est ça qui compte pour moi. J'ai appris le français et l'arabe au même jour, quand j'avais 4 ans. Et toujours, la France présentait pour moi la grande culture. La défense des droits de l'homme, la liberté, l'État laïque, les grands écrivains, les très grands écrivains.
Lesquels, par exemple, dans votre panthéon
Vous voyez...
Parce que moi, j'ai pensé à plein de gens en vous lisant.
Après toutes ces années, je découvre l'influence que j'ai eue quand j'étais petit. Et c'est très intéressant pour moi. Par exemple, j'ai découvert que j'ai appris pour la première fois comment décrire un personnage grâce à la Bruyère.
Voilà.
Les caractères de la Bruyère.
Exactement.
Je me souviens maintenant la première fois que j'ai étudié les caractères de la Bruyère et je me suis dit que c'est incroyable, on peut dessiner un visage avec les mots. C'est incroyable.
C'est vrai qu'on pense à la Bruyère, le personnage, c'est un passage que j'adore, vraiment les premières pages, ce portrait du général.
Ouais.
Mais j'y reviendrai parce qu'il est caractérisé par... deux obsessions générales, trois, le pouvoir, la religion et le sexe, en fait.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai pensé à la Bruyère.
Ouais.
Donc la France, pour vous, c'est d'abord presque, enfin, ce sont les écrivains français, c'est une technique d'écriture, hein, ce que vous dites.
Non, c'est beaucoup plus.
Ouais.
Moi, je parle anglais, j'ai étudié en Amérique, je parle espagnol aussi. Mais je pense toujours que la langue française, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est une manière de voir le monde. Pour moi, la France, c'est la grande culture, vous voyez. Alors, malheureusement, moi, j'ai rencontré des hommes de politique français, parfois, qui n'ont pas cette idée, vous voyez, qui vont réduire, par exemple, les dépenses pour les centres culturels français autour du monde, parce que le budget, je ne sais pas quoi. Non, la France est un grand pays, pas grâce à l'armée, pas grâce à l'industrie, mais grâce à la culture française.
Alors, engagé, vous l'êtes à la Soigny. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui était une formidable coupe transversale de la société égyptienne, livre traduit dans le monde entier, porté à l'écran. chassé-croisé d'histoires individuelles prises dans l'histoire collective d'un pays, l'Égypte. Et j'ai l'impression, en fait, à la Lassouani, que vous racontez des histoires, vous adorez ça, mais vous n'hésitez pas non plus, vous, à vous embarquer dans l'histoire quand vous sentez qu'elle est là, au point d'être devenu une sorte de, je sais pas, vous allez peut-être me dire que je vais trop loin, mais de conscience révolutionnaire, au fond, de votre pays. Ça vous va, ça, conscience révolutionnaire ?
Oui, mais je pense la littérature par nature. La littérature est révolutionnaire, mais qu'est-ce que ça veut dire de la littérature et qu'est-ce que ça veut dire de la révolution ? Ils ont beaucoup de choses en commun. On veut changer, c'est une défense des valeurs humaines. On veut que les êtres humains soient traités comme des êtres humains. Ça, c'est le but de la littérature et le but de la révolution. La littérature doit être révolutionnaire. Pas dans le sens politique direct, mais dans le sens artistique humain.
Gorky trouvait que Dostoïevski n'était pas assez révolutionnaire. Vous, vous avez envie d'être un écrivain révolutionnaire ?
Non, c'est pas vrai. Je vous remercie pour cette question. Moi, ouais. Je pense que Dostoïevski, le plus grand romancier, a vraiment servi la révolution beaucoup plus que Gorky. Parce que Gorky, qui disait tout le temps « je suis un membre de la partie communiste et après je suis romancier », Dostoïevski n'a jamais donné de réponse. Il a toujours posé des questions parce que c'est un grand, grand écrivain. Alors moi, je pense que la révolution russe a été motivée beaucoup plus par les œuvres de Dostoïevski que par Gorky. Et même les autorités communistes, ils se sont rendus compte de ça 20 ans après la révolution. Vous savez que Dostoïevski a été interdit dès 1917 jusqu'à 1939. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il est révolutionnaire, ouais, mais à sa manière.
Exactement. Alors vous avez fondé dans les années 90 avec d'autres intellectuels le mouvement politique Kifaya, qui veut dire « ça suffit ». Vous avez manifesté, je le rappelais, aux côtés des étudiants et autres révolutionnaires de la place Tahrir qui ont fait chuter Moubarak. Vous avez lutté ensuite contre son successeur Mohamed Morsi, qui voulait lui imposer une autre forme de dictature. Vous avez chroniqué dans la presse les épisodes mouvementés de ce printemps égyptien qui a suscité autant d'espoir que de déception, même si vous terminiez toujours vos chroniques par une phrase rituelle « la démocratie est la solution ». Et c'est vrai, l'une de vos caractéristiques, c'est assez rare pour mériter de signaler, c'est que vous écrivez des romans, mais aussi des articles. Alors après Chicago ou Automobile Club d'Égypte, vous revenez aujourd'hui avec ce roman formidable « J'ai couru vers le Nil », qui est à la révolution égyptienne de 2011 ce que l'immeuble Yacoubian était à la société égyptienne des années 90. Il est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier, c'est publié chez Actes Sud. C'est un livre, c'est votre premier livre, je crois, qui est interdit en Égypte.
Ouais, partout. Pas seulement en Égypte.
Dans les pays arabes.
Dans les pays, sauf trois. Le Liban, le Maroc, voilà, et la Tunisie.
Exactement. C'est le Liban qui le publie.
Oui. Voilà. C'est Dar el Adeb, voilà, la maison de publication la plus grande au Liban. Et c'est cette maison de publication qui a publié le roman interdit de Naguib Mahfouz.
Exactement. Ouais. Voilà. Et donc ça, vous le prenez aussi comme un honneur.
Oui, absolument.
Ouais. Quel est son titre en arabe?
Gomhoriyat Ka'ana.
Voilà. Ka'ana. La République. Comme si.
Oui,
comme si. Si c'était la République. Vous comprenez pourquoi celui-là était interdit et pas à l'immobilier?
Absolument, ouais, absolument. Parce que maintenant, on a une dictature qui est pire que jamais, parce que je suis vu par le régime comme un ennemi de l'État, ce qui n'est pas vrai, je suis un ennemi de la dictature. Parce que ils pensent.
Donc la dictature, pour vous, quand vous dites dictature, on parle bien du régime du maréchal Al-Sisi.
Absolument. Voilà. Même lui, il ne peut pas dire qu'il y a une démocratie en Égypte. Et parce que il me donne l'honneur qu'ils m'ont dit une fois, un général m'a dit, mais votre problème, c'est que vous avez vraiment de l'influence. Et je trouve ça un grand honneur.
Bah d'ailleurs, place Tahrir, vous l'avez dit souvent, les étudiants vous disaient, on est là à cause de ce que
grâce,
vous avez écrit.
Grâce à vous. Ouais. Et après 17 prix littéraires, je vois que ça, c'est le prix littéraire le plus grand que j'ai eu, cette phrase.
Donc vous comprenez finalement
Je suis interdit de tout. Hein.
Voilà,
je suis interdit
aussi,
de, radio. De radio, de la télévision, d'écrire dans les journaux égyptiens. Je suis interdit même d'organiser mon séminaire littéraire que j'ai organisé pendant 20 ans. Maintenant, ça, ils arrêtent tout le monde.
Parce que pour eux, la littérature et la révolution, c'est
parce que c'est dangereux.
Ouais, c'est
vous voyez, ils voient que c'est dangereux. Ouais. Cette littérature est dangereuse. Ouais. Et je trouve ça vraiment un honneur. Ouais. Parce que la littérature doit être, pour un dictateur, dangereuse.
Ouais. C'est ce que disait aussi Vargas Llosa,
oui.
Par exemple, qui a aussi écrit des textes sur les dictateurs alors
exactement.
En Amérique du Sud. Je voulais juste vous demander, j'ai lu que votre fils, à cause de vous, au fond, qui est acteur, ne pouvait plus jouer, parce qu'on ne peut plus le faire
on
jouer.
On ne peut plus jouer.
Et que votre fille... On lui a carrément mis sur le dos un accident de voiture, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais, absolument. Ouais. C'était terrible. Ouais. Parce que on a changé le rapport de la police et on a fait une pression sur l'homme qui a fait l'accident pour dire que c'est elle qui a fait l'accident. Mmh. Et on a commencé à mentir dans les médias en disant que la voiture de ma fille est une voiture vraiment misérable, hein, une voiture italienne, très ancienne et tout. Alors on a dit dans les médias parce que son père est très riche et il lui a acheté une voiture Hammer. Hammer, ça veut dire 2 millions de livres égyptiennes, vous voyez. Et elle écrase les gens, elle s'en fout. Et voilà ce monsieur qui défend la révolution, on veut pas. Et ils ont continué à dire ces choses.
Manipulation.
Incroyable.
Pourquoi vous restez en Égypte, Laila Souani? Vous pourriez finalement vivre où vous voulez. C'est vrai que vous enseignez aussi la littérature aux États-Unis parfois. Quand on voit ce qui se passe pour vos enfants, quand vous parliez de Naguib Mahfouz qui a quand même été assassiné, pourquoi vous restez en Égypte? On vous ennuie quand même, je veux dire, on est là aussi sur votre dos. Pourquoi l'écrivain à Laila Souani doit rester?
J'essaye de ne pas quitter l'Égypte jusqu'au dernier moment. Je suis pas sûr si je vais rester. Il m'embête de plus en plus. Maintenant, chaque fois que je voyage, je suis gardé 2 heures à l'aéroport pour poser des questions que je trouve très bêtes. La dernière fois, ce qui est vraiment incroyable, ils ont trouvé un livre avec moi qui est L'étranger d'Albert Camus. Alors l'officier m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et j'ai dit, écoutez monsieur, c'est un écrivain français, mais qui n'est pas du tout contre monsieur Sisi. Alors il m'a posé les questions, est-ce que vous l'avez rencontré en Amérique? J'ai dit, je voulais bien. Il a dit, non, vraiment, est-ce que vous êtes sûr que vous ne l'avez pas rencontré? Et j'ai dit, écoutez, ce monsieur est mort en 1960, alors j'ai pas eu le temps de rencontrer monsieur Camus. Alors lui, il a appelé son supérieur en disant, oui monsieur, c'est vraiment de l'absurde total. Oui, il a un livre d'un écrivain français, il a oublié le nom, qui est mort en 1960. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Et j'ai dit, écoutez, vous voulez le roman, vous lisez le roman, vous pouvez lire en anglais, c'est très bien. Hein, parce que c'était j'enseignais Camus en anglais. Alors, c'est amusant maintenant, mais quand ça se passe avec vous, tout le temps vous êtes gardé pendant 1 heure et 2 heures, et c'est pas bien.
Non.
C'est pas bien.
On pense à Kafka
à
2 minutes, ça fait sourire, mais en même temps, ça angoisse un peu.
Absolument.
Ouais. Ouais. Et sur, par rapport à ces jeunes que vous accompagniez sur la place Tahrir, et votre roman, on va en parler tout de suite, mentionne ça, ces désillusions. Quand ces jeunes vous ont dit, on est là à cause de ce que vous avez écrit, et que vous voyez ce que la révolution a donné, que ces jeunes sont dans la désillusion la plus totale, est-ce que, comme écrivain, vous vous êtes senti aussi responsable, au fond, autant des espoirs que des espoirs déçus?
Oui, mais j'essaie de... C'est exactement... Peut-être c'est pour cela qu'ils ont interdit mon séminaire, parce que j'étais tout le temps en train d'expliquer pour les jeunes que la révolution a besoin du temps, qu'on n'a pas perdu, que c'est pas fini, vous voyez, que... Toujours je disais, vous lisez la Révolution française comme modèle. Après 10 ans, c'était l'enfer en France. Hein? Mais on a besoin du temps. Parce que on a fait un changement, peut-être, qui est un changement social et culturel, qui est moins visible, à mon avis, que le changement politique, mais plus important. Mmh.
On va parler de ce livre « J'ai couru vers le Nil », qui est le portrait mosaïque d'une révolution, qui est un hommage justement aussi à la jeunesse, qui a cru à cette révolution, qui est aussi un pamphlet, un brûlot contre ceux qui, alors des militaires aux religieux, mais en passant aussi par les vieux marxistes désillusionnés, finalement ont brisé les espoirs de cette jeunesse. C'est aussi un roman haletant, vraiment haletant, plein d'une ironie salutaire, où on rit aussi malgré nous, et parfois on s'inquiète aussi un peu pour vous, parce qu'on se dit il va loin, Alaïla Laswani. On en parle tout de suite, on va écouter d'abord, pour se mettre un peu en jambe, votre premier choix musical, c'est Kalsoum, la quatrième pyramide d'Égypte. Vous avez choisi. Vous avez choisi quel titre, Alaïla Laswani?
Enta Omri, 1964.
Voilà. Enta Omri, on écoute. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوك ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني Omri, Kalsoum, c'est le premier choix musical d'Alaïla et Laswani qui publie J'ai couru vers le Nil, qui est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier, c'est publié chez Actes Sud. Pourquoi le choix d'Kalsoum? J'ai honte en demandant pourquoi Kalsoum.
Non, Kalsoum, c'est nous. Kalsoum, c'est l'Égypte. Kalsoum, c'est notre art, c'est notre. Vraiment, la manière de voir le monde, pour moi, c'est Kalsoum. Et aussi. Intéressamment, je ne peux pas écrire sans écouter ou bien Oum Kalsoum ou bien Edith Piaf. Mmh. Et ça dit quelque chose sur moi, hein. C'est que j'ai cette culture égyptienne et française aussi. Mmh. Alors j'adore Piaf aussi.
On l'écoutera tout à l'heure.
Ouais, hein, bien.
Voilà. J'ai couru vers le Nil, donc je disais, c'était à la révolution égyptienne, un petit peu ce que l'imam Yacoubian a été à la société des années 90, hein, à la société Kérot. C'est le portrait simplement d'une société qui est prise dans un instant donné, en 2011, donc au moment de la révolution Place Tahrir, révolution dont les espoirs ont été douchés malheureusement. Ça se concentre sur quelques mois, les prémices du soulèvement, le début des manifestations sur la Place Tahrir, le 25 janvier 2011, la démission de Moubarak le 11 février et la reprise en main par les militaires du Conseil suprême des forces armées. Et c'est un livre qui est bouleversant, drôle, je le disais aussi, mais bouleversant parce qu'il s'achève aussi sur deux manifestations réprimée avec une extrême violence, celle de Maspero hein, devant l'immeuble de la télévision, 19 octobre, et puis celle de la rue Mohamed Mahmoud du 19 au 25 novembre. C'est un hommage à la jeunesse qui a cru à cette révolution. C'est un brûlot contre ceux qui, des militaires aux religieux, en passant par les anciens marxistes désillusionnés, ont brisé les espoirs de cette jeunesse, contre le pouvoir qui a torturé, tué ces jeunes défenseurs de la liberté. Je voudrais juste citer quelques-uns des personnages que vous mettez en scène, Alaïla Laswani. Asma, la jeune enseignante qui ne veut pas se voiler, qui correspond avec son amoureux Mazen, qui est ingénieur, socialiste convaincu, membre du mouvement que vous avez cofondé, Kifaya, ça suffit en arabe. Issam, directeur de l'usine où travaille Mazen, qui milita avec son père, homme désabusé. Je voudrais citer aussi Nouran, sorte de star, présentatrice de télévision, un peu starlette, qui elle se vend, enfin se marie, mais se vend en se mariant, voilà, au plus offrant, dont le vénal cher Chamel. Et puis Dania, la fille du général entrée dans la révolution par amour aussi, l'étudiant Khaled. Alors l'étudiant Khaled, est-ce qu'il faut voir derrière lui Khaled Saïd, qui avait été assassiné par la police militaire de Moubarak à Alexandrie en 2010.
Absolument, ouais. Absolument. Même lui, il parle de Khaled Saïd. Khaled Saïd était vraiment l'exemple de la brutalité de la police égyptienne. Et c'est arrivé à un moment donné qu'on ne pouvait plus supporter ça.
Donc il faut voir aussi certains personnages existants. On parle souvent, vous dites que ce n'est pas un roman à clé, mais il y a quand même
un
passage du réel à la
fiction.
Mais
vous êtes peut-être d'accord avec moi que la formule, c'est fiction égale réalité plus imaginaire.
Ouais. Réalité augmentée, quoi.
Exactement. Voilà,
par l'imaginaire.
Alors, je suis toujours inspiré par des personnes que j'ai connues, par des moments que j'ai vécu. Ouais. Mais il y a l'imaginaire aussi. Pour présenter un personnage plus significatif.
Ouais. Ouais. Alors on va faire un petit exercice justement à la Soigny. On va prendre ce premier personnage. On parlait de La Bruyère tout à l'heure. Moi j'ai pensé certes à La Bruyère, mais aussi à Molière avec ce personnage de Tartuffe absolument accompli.
Molière continue avec moi tout le temps en Égypte.
Voilà.
Tout le temps.
Alors, il s'appelle le général Alouani, c'est l'incarnation de l'hypocrisie des puissants. C'est un général, il est à la tête de ce qu'on appelle l'organisation. Alors, c'est un nom de code pour autre chose, hein. C'est quoi? C'est la sécurité
oui,
d'État pas,
oui, j'ai hein pas, bon. Je voulais pas vraiment présenter des détails en plus. Je voulais garder l'exemple. Vous voyez, c'est un chef de l'organisation. Soit la sécurité d'État, soit les services militaires, soit...
Il a beaucoup de moyens, il a beaucoup de gardes, il a une femme aussi. Et alors, il commence chaque matin comme ça par faire l'amour à sa femme. Et je voudrais lire un petit peu un extrait de « J'ai couru vers le Nil ». Le voici donc assis au bord du lit de Hadja Tahani, son épouse plongée dans le sommeil. Il tend la main vers la télécommande du satellite pour mettre une chaîne X en réglant le son pour qu'on ne l'entende pas en dehors de la chambre. Les yeux écarquillés, il contemple les scènes chaudes de fornication qui se déroulent sur l'écran. Puis, lorsqu'il ne peut plus supporter l'excitation, il jette son peignoir sur le sol et saute sur sa femme, l'embrasse avec ardeur tout en palpant son énorme corps qui le reçoit immédiatement avec une chaleur surprenante, ce qui indique qu'elle était probablement en train de regarder le film en cachette. La rectitude du général Alouani, rectitude à prendre dans tous les sens du terme, je pense, et c'est bien traduit, sa manière de se tenir à l'écart du vice, son éducation militaire, son astreinte à la pratique du sport et un régime alimentaire sain, tous ces facteurs ont conservé sa puissance sexuelle sans nécessité de stimulants chimiques. Et aussi longtemps qu'il garde à l'esprit les images du film pornographique, il va et vient dans le lit comme s'il avait 40 ans. Mais on peut se demander comment le fervent musulman qu'est le général Alouani peut regarder des films pornographiques. Et là, on arrive dans une démonstration totalement jésuitique, j'allais dire, de la justification, au fond, de la pornographie par l'islam. Et puis, ce qui est plus aussi cruel, c'est que juste après, il va torturer, en fait, ce général. Et là, je me suis dit quand même, ce livre donc a été interdit, mais il est quand même sorti au Liban. Vous allez extrêmement loin, justement, dans l'ironie à la Soigny. Alors là, c'est très français, on parlait tout à l'heure. Mais vous allez extrêmement loin.
Oui, mais c'est que quand j'ai peur, je ne peux pas écrire. Et quand j'écris, je n'ai plus peur. Vous voyez, c'est vraiment moi. Dès que j'écris, je n'ai plus peur.
Vous ne pensez pas aux conséquences
Non, je m'en fous. Ouais. J'écris ce que je veux écrire et après... Je dis souvent que ça va créer des problèmes, mais tant pis, vous voyez.
Ça, un écrivain ne doit pas avoir peur.
Parce que la peur et l'écriture sont contradictoires, vous voyez.
Donc il y a zéro limite, au fond.
Non, zéro limite. Ouais. Zéro, zéro, zéro.
Pourvu que ça soit crédible, quand même.
Oui, mais c'est comme ça que je vois l'écriture. C'est pas la politique. On peut pas cacher, dire demi-vérité, on peut pas... La littérature, c'est... C'est le petit enfant qui se trouve face à face avec le roi et qui dit au roi que vous êtes nu. Vous voyez, alors c'est comme ça que je vois la littérature. Alors
pourquoi ce rôle, je dis pourquoi, moi j'ai très bien compris, mais je pose la question évidemment pour les auditeurs, pourquoi ce rôle aussi important accordé à la sexualité dans ce livre, qui est à la fois libératrice, parce qu'il y a ça aussi, il y a un personnage d'ailleurs de copte qui trouve la véritable expression de son humanité et de son désir dans les amours avec sa servante, parce que sa femme ne le regarde plus, mais donc soit libératrice, soit oppressante, elle joue un rôle considérable la sexualité dans ce livre, et c'est extrêmement intéressant. Ça aussi, d'ailleurs, c'est très, très français.
Oui, ouais. Parce que moi, je pense que la littérature, est une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Alors, cette vie que j'essaye de créer sur les papiers doit avoir la sexualité, parce que la sexualité, c'est une place d'inspiration humaine. On fait pas l'amour seulement pour le désir, mais on fait l'amour motivé par plusieurs choses. Il y a plusieurs raisons pour faire l'amour. On fait l'amour parce qu'on a peur, parce que on cherche une mère, parce que on veut être protégé, parce qu'on veut découvrir la femme ou découvrir l'homme avec lequel ou laquelle on va coucher. Alors c'est un moment d'humanité incroyable, avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de richesses. On peut pas rater ça comme romancier.
Mais là, vous en parlez admirablement, mais le passage que je citais tourne aussi en dérision la sexualité de cet homme qui finalement a besoin d'un film pornographique pour ne pas dévier finalement de la loi religieuse qu'il s'est imposée. Vous parlez aussi plus loin d'un cher qui a plusieurs épouses et puis une épouse vierge à chaque fois qu'il consomme.
Ouais.
Et qu'il congédie, c'est la fameuse tradition des mariages provisoires hein, qui
ouais,
sont
ouais,
tolérés
absolument.
Par l'islam.
C'est-à-dire
que vous pensez aussi que vraiment il faut se servir aussi de la sexualité quand on est romancier pour frapper, j'allais dire, au-dessous de la ceinture. C'est là aussi où
absolument,
ça fait plus
mal. Mais vous avez raison, je suis d'accord, mais j'ai jamais eu une décision pour faire ça. Je crée le personnage et le personnage bouge sur l'écran de mon imagination, il fait des choses et moi, j'écris ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Mais à la fin, on a un résultat, exactement ce que vous avez décrit, c'est que ce monsieur, il fait tout sous une couverture de la religion. Lui, il fait l'amour, il garde, il fait les prières, il torture, il est très bien. Il est très bien parce qu'il y a toujours la couverture de son interprétation de la religion.
Voilà, je cite aussi un passage quand je disais que c'était très très drôle, malheureusement d'ailleurs drôle. Évidemment, il est général, donc il est tout puissant, et donc quand il a besoin de demander un service, au fond, il a même pas besoin de le demander.
Ouais.
Mais il fait comme si, encore une fois.
C'est pour cela que le titre était La République comme si.
Voilà.
C'est exactement ce que vous dites.
Je le cite. Donc il appelle, en fait, une société, en fait, qui a besoin de. La société Zemzem vous a présenté une demande d'attribution d'un terrain. Cette société appartient à mon beau-frère, Hadj Nasser Talima. Le service que vous pouvez me rendre, monsieur le gouverneur, c'est de traiter Hadj Nasser comme tous les autres entrepreneurs. S'il vous plaît, appliquez la loi sans faire de faveur. Après un silence, le gouverneur lui répond alors, votre excellence nous donne des leçons d'impartialité et de désintéressement. Ce sur quoi le général interrompt en lui disant « Qu'à Dieu ne plaise, je suis égyptien et j'aime mon pays, je suis musulman et je n'accepte rien de contraire à la religion. » Au fond, à chaque fois qu'il appelle, c'est pour dire « Surtout, ne me faites pas de faveur, à chaque fois, dans tous les domaines. » Mais là, c'est pareil, vous allez
vous trouvez pas Molière, là ? Moi, je trouve Molière.
C'est ce que je disais, c'est Molière, c'est Tartuffe. Mais quelle est la part de fiction, quelle est la part de théâtre ? Parce que pour être aussi sérieux, parce que ce livre est aussi sérieux, d'ailleurs il embrasse toutes les dimensions de la vie, l'humour, le tragique, il y a aussi des parts de témoignages sur les tortures, par exemple, vous le mentionnez.
Oui, témoignages
de témoignages,
mais j'ai changé le nom.
Donc quelle est la part de fiction, de réel, comment vous avez travaillé
non, mais
tout ça?
Vous êtes toujours, comme romancier, inspiré par des personnes pour écrire des personnages. Parfois on utilise deux ou trois personnes ensemble pour créer le personnage, mais il y a toujours une base. J'ai vu des gens comme ça, j'ai entendu des gens comme ça, j'ai vu des gens absolument corrompus, des ministres, mais qui ont toujours cette couverture de religion. Pour la torture, ce sont des témoins.
Sont venus vous parler.
Oui, mais j'ai changé le nom parce qu'on ne peut pas dire les vrais noms sans des permissions et ils ne vont jamais donner permission. Oui.
Parce que par exemple, page 338, témoignage de Mahmoud et Sayed. C'est l'un des passages les plus. D'ailleurs, c'est dans ce passage qu'on trouve la phrase qui, en français, sert de titre à votre roman, qui n'est pas La République comme si, mais J'ai couru vers le Nil, où vous parlez, enfin c'est absolument terrible, hein. J'ai continué à battre en retraite jusqu'au local du Parti National, et j'ai vu des gens sur le pont du 6 octobre qui jetaient des pierres sur ceux qui étaient en dessous. Cela ressemblait à un champ de bataille, les gens criaient, les gens couraient, revenaient. J'ai remarqué des gens qui couraient derrière le tank, qui il y a peu nous aurait écrasés, et qui maintenant repartaient après avoir terminé sa promenade. Et puis... voilà, il y a ce garçon qui est mort, écrasé. Lui, vous parlez des morceaux d'ailleurs, des morceaux humains. Tout ça, quand je lis témoignage de Mahmoud Essayed, c'est pas un réel Mahmoud Essayed, mais c'est quelqu'un qui est venu voir le romancier à la Laswani pour porter témoignage.
Oui. Et pas seulement pour moi, mais c'était sur l'internet, c'était partout à l'époque. Tous ces témoins, ils ont parlé à la télévision égyptienne à l'époque. Maintenant, ils ne peuvent plus parler. Mais à l'époque, c'était après la révolution. Ils pouvaient dire ce qui s'est passé.
Donc, c'est du matériel que vous avez trouvé absolument, dans la presse,
absolument,
à la télévision.
Absolument. Et non, il y a aussi des gens qui m'ont raconté. Voilà. La torture, par exemple, de cette femme, de cette jeune, c'est une amie qui a été torturée.
Quelle place joue le roman, justement, la forme du roman dans l'engagement de l'écrivain que vous êtes par rapport aux articles du journaliste que vous avez été, enfin de l'écrivain journaliste, dans la tradition, justement, des Zola dont on parlait, et des grands... est-ce que c'est pas encore plus fort, finalement, l'engagement que vous avez dans le roman, paradoxalement, au fond?
Non, c'est notre monde, parce que le roman n'est pas vraiment un moyen de changer la situation. On n'écrit pas un roman pour changer le régime. On écrit un roman pour changer les gens. Vous voyez? Si on veut changer le régime, on fait un mouvement kéfir, par exemple. Mais un roman ne va pas changer le régime, mais va changer les gens. Il va ajouter une expérience humaine au lecteur, j'espère. Alors, ces lecteurs, changés par la littérature, seront plus capables de changer la situation.
Quels sont, vous, justement, les écrivains qui ont changé l'humain que vous étiez pour vous permettre aussi de se dire « je vais changer la société en fondant des mouvements politiques ».
Oui, mais tous les... Non.
Quels ont été vos mentors
Non, moi, je ne me sens pas très confortable avec le terme « écrivain engagé ». Parce que il peut être dangereux, ce terme, vous voyez.
Pourquoi?
Parce que il peut donner l'impression que vous avez moins de l'art et plus de la politique, vous voyez. Moi, je pense que la littérature est engagée, pas les écrivains.
En fait, c'est...
Les écrivains sont engagés parce que la littérature est engagée. Ah. La littérature est une défense des valeurs humaines, à la base, vous voyez. Alors... Chaque écrivain doit...
Ça serait une tautologie de dire, finalement, littérature engagée. Il n'y a pas besoin de rajouter engagé.
Exactement. Alors, moi, je pense que c'est le rôle d'écrire. Je ne peux pas écrire de romans pour défendre la liberté, défendre les êtres humains. Et quand il y a des millions dans les rues de l'Égypte qui sont absolument préparés pour mourir pour la liberté, je ne peux pas rester chez moi. Moi, je n'aime pas la politique du tout. Mais je ne pense pas que j'ai fait... La politique, jamais. Moi, j'ai défendu les valeurs humaines en Égypte. J'ai défendu la liberté, vous voyez.
Oui, mais en même temps, moi, je pensais à Garcia Marquez, par exemple, dans l'automne du Patriarche, quand il décrit justement les dictateurs et le sentiment, la psychologie d'un dictateur, à savoir des gens entourés de gens qui leur disent qu'ils sont formidables, bienveillants, etc., et qui comprennent pas quand il y a un soulèvement de gens qui disent on n'aime pas, on veut que tu t'en ailles, etc. Au fond, le roman peut être considéré aussi comme une meilleure arme que Kifaya. Vous dites ça change pas la situation politique.
Directement.
Mais,
ça va changer, mais à travers le changement humain. Vous voyez, moi, ça, c'est un grand maître. Hein. Je vous dis quelque chose. J'ai appris l'espagnol simplement pour lire Garcia Marquez en espagnol. Alors ça, c'est un grand maître de littérature. Quand vous lisez l'Automne du Patriarche, vous aurez une connaissance. Qu'est-ce que c'est un dictateur? Et c'est cette connaissance humaine qui va... On va apprendre à travers cette connaissance que... On doit éviter la dictature parce que c'est un phénomène qui va donner des problèmes, même si pas maintenant, mais après, vous voyez.
Mais à l'inverse, quand vous étiez justement sur cette place Tahrir, et on l'a dit tout à l'heure, que les étudiants vous disaient « on est là à cause de ce que vous avez écrit », ils parlaient de vos articles où il parlait de vos romans.
Les deux.
Voilà.
Les deux. Moi, je suis vraiment très fier parce que dès L'Immeuble Jacobien que j'ai publié en 2002, j'ai eu tant de lecteurs en Égypte, dans le monde arabe, que c'était vraiment un phénomène. De vendre en Égypte pendant un an 150 000 exemplaires, c'était incroyable. Après, il y a d'autres écrivains qui ont fait ça. Mais moi, j'ai l'honneur d'être le premier, vous voyez. Ils me disent que c'est grâce à mon écriture. Peut-être. Mais je pense que la raison la plus importante, que l'Égypte, à ce moment-là, était en train de changer. Une nouvelle génération qui va faire la révolution 10 ans après était vraiment une génération de lecteurs.
Mais ils se sont reconnus, parce que c'est vrai que s'il y a une force dans votre art de romancier, c'est l'art de bâtir des personnages.
Ouais.
Des personnages, je le disais, qui peuvent souffrir, mais qui peuvent aussi être terriblement amoureux dans ce livre, dans ce nouveau livre, J'ai couru vers le Nil. Si je parle de la correspondance amoureuse entre Asma, cette jeune femme, et Mazen, voilà, ce jeune homme aussi qui va être un martyr de la révolution, ou ce copte, hein, aussi, ou même la fille du général, parce que le général dont on parlait, qui est ridicule avec son porno le matin, et ses justifications théologiques, il a une fille, Dania, qui est en fac de médecine, et qui, elle, va tomber amoureuse du fils du chauffeur de taxi, et qui est un jeune homme aussi qui vibre du sentiment révolutionnaire. Est-ce que ces jeunes gens-là de la place Tahrir, ils étaient pas aussi contaminés dans le sens positif, une belle contamination, par vos personnages? Est-ce qu'au fond, c'est pas parce que vous faites de si beaux personnages qu'ils s'identifient
mais totalement? Mais je peux pas, mais j'aime bien dire oui, mais peut-être c'est...
Non mais est-ce que vous y pensez à ça? Dans vos constructions
oui,
de personnages
je
en
pense,
disant,
non,
je vais donner des incarnations pour cette jeunesse.
Les personnages, pour moi, vous voyez, le fondateur de ma maison de publication en Italie, il s'appelle Gian Giacomo Feltrinelli, et c'est quelqu'un un grand intellectuel.
La Feltrinelli, oui, la grande maison
d'édition. Oui, alors lui, il a dit une phrase que j'aime beaucoup, il a dit, moi, je connais deux genres de romans, le roman mort et le roman vivant, et mon boulot, c'est publier le roman vivant. Et je trouve ça vraiment très simple et très profond.
Alors c'est quoi un roman vivant et c'est quoi un
roman mort?
C'est
les personnages. Je dois créer les personnages que je crois. Dès que je crois les personnages existent, ils vont bouger et je vais les suivre. Vous voyez L'Immeuble Jacobien, par exemple. Il y avait à la fin ce vieux qui est tombé amoureux avec la fille. Et les deux, le couple a été arrêté, humilié par la police. Et à la fin du chapitre, le vieux dit à la jeune fille, on doit oublier ce qui s'est passé. Elle a répondu en disant, j'étais toujours une personne malheureuse ou quelque chose comme ça. J'écris très tôt le matin. Alors j'écris, j'ai fini le chapitre et j'ai passé toute la journée. J'ai senti très mal pour elle, vous voyez. Alors le lendemain, je me suis réveillé, j'ai ouvert le laptop et j'ai découvert...
L'ordinateur, hein, voilà.
L'ordinateur. Et j'ai découvert que ils sont mariés, les deux. Et j'étais très content.
Vous avez découvert, c'est-à-dire
c'est vraiment ça. Ouais. Quand j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai découvert qu'ils ont décidé de se marier.
C'est marrant, vous dites découvrir, vous avez inventé.
Non.
Pourquoi vous dites
non, parce que après, c'est eux qui décident. C'est un peu mystérieux, mais c'est vraiment la vérité.
Ouais.
Je suis sorti de mon bureau, j'avais ma femme. On est très tôt, hein, 6h30, elle m'a dit, j'étais en train de sourire, et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, ils vont se marier. Les deux. Et j'étais vraiment très content. Et je vous dis que j'ai pas poussé, j'ai pas décidé, j'ai pas... Alors, quand mes chers lecteurs posent la question, mais pourquoi vous avez tué ce personnage à la fin? J'ai dit, j'ai jamais tué personne. Vous voyez,
C'est un autre personnage qui l'a tué.
Ouais.
On va continuer avec vous, Alaa El Aswany, parler de J'ai couru vers le Nil, votre nouveau roman bouleversant, touchant. On apprend plein de choses sur cette société égyptienne, sur la révolution de 2011. Ça paraît chez Actes Sud en cette rentrée. Et puis je voudrais qu'on parle des personnages de femmes, parce qu'il y a vraiment des personnages de femmes qui traversent le roman, qui sont ou merveilleux ou atroces. Mais on écoute, alors voilà, vous nous avez finalement annoncé tout à l'heure, après Oum Kalsoum,
Edith Piaf. Edith Piaf, parce que j'écris en écoutant bien Edith Piaf ou Oum Kalsoum.
En écrivant.
Ouais.
La musique d'Edith Piaf ne parasite pas la musique
Non, du tout. Je me trouve là.
Très bien. Alors on écoute laquelle?
Je ne regrette rien.
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Je ne regrette rien d'Edith Piaf, c'est le choix de Ala El Aswani qui publie J'ai couru vers le Nil chez Actes Sud, son nouveau roman consacré à la révolution de 2011. C'est absolument magnifique, bouleversant, merci, chatoyant, merci. Drôle, plein d'ironie. Vous allez très très loin, on vient d'en parler pendant cette conversation du temps des écrivains. Vous nous parliez là d'Edith Piaf, vous écrivez avec Edith Piaf. Je dois vous faire une confidence, Ala El Aswani, puisque Je ne regrette rien, c'est ce que m'a répondu Salman Rushdie quand je lui ai demandé récemment s'il regrettait finalement d'avoir écrit les versets sataniques, au fond, 30 ans après. Et il m'a dit « Je suis comme Edith Piaf, je ne regrette rien ». Voilà. C'est quelqu'un que vous appréciez, Salman Rushdie?
Oui, mais Salman Rushdie est un grand écrivain, même si... c'est calme. Et aussi, je pense que ce problème a été manipulé. Vous voyez, moi j'étais en Égypte. On ne peut pas analyser ou évaluer un roman sans comprendre et sans le lire même. Et on a une tendance dans les dictatures arabes de trouver, de chercher des problèmes qui ne coûtent rien. Vous voyez, des problèmes comme ça que les gens se mettent en colère parce que quelqu'un a dessiné, je sais pas, le prophète Mohammed au Danemark, je sais pas quoi. Et même le régime, c'était à l'époque de Moubarak, poussait les manifestations.
Ça ne coûte rien.
Vous voyez, le Danemark, c'est pas l'Amérique. L'Amérique, ça coûte cher de faire un problème avec l'Amérique. Mais le Danemark, c'est un pays pacifique. Alors, on a fait un grand problème, parce que, à mon avis, le régime, les dictatures, ils ont besoin des problèmes qui ne coûtent rien.
Et l'écrivain, donc, ça veut dire que l'écrivain ne coûte rien à la
Oui, chez la, pour une dictature, l'écrivain, c'est un métier qu'on ne comprend pas. Et comprendre, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et vous faites des problèmes tout le temps, vous voyez?
On parlait de vos personnages, Adèle Assouani, qui sont absolument... Ceux qui ont lu l'immeuble Yacoubian le savent, vous n'avez pas votre pareil pour bâtir... Il y a un côté vie mode d'emploi, quoi, voilà, avec des personnages extrêmement bien, bien bâtis. Et dans ce Danger couru vers le Nil, donc qui raconte la Révolution, au fond sur 9 mois, hein, depuis les prémices de la Révolution, donc en 2011, jusqu'à la reprise en main, la répression en fait terrible par les militaires avec une extrême violence. Vous nous racontez à la fois ces cœurs révolutionnaires qui flamboient, les cœurs de la jeunesse. D'ailleurs, vous le dites, hein, une révolution, c'est comme une histoire d'amour. Ça vous rend plus beau, plus heureux, plus courageux. Au fond, comme quand vous parlez de littérature, c'est les mêmes mots.
Exactement.
Oui. Mais aussi des scènes de torture, des scènes terribles, de désillusion aussi, et de violence. Il y a des personnages de femmes extrêmement attachants, notamment Asma, qui est une jeune étudiante qui refuse de se voiler parce qu'elle refuse de se voiler. Alors qu'elle a des arguments théologiques, hein, pour dire, oui. Voilà, oui. Subit des choses terribles et qui correspond amoureusement avec un jeune garçon. C'est important de parler de la révolution en termes finalement de sentiments plus que d'idées quand oui. On est un romancier.
Absolument. On ne doit pas oublier que la moitié des manifestants de la révolution égyptienne, au minimum, étaient des femmes. C'était une libération, pas seulement pour le peuple, notre révolution, mais aussi pour les femmes. Et les femmes étaient toujours devant, et les femmes étaient toujours face à face avec la police, et les femmes étaient en prison, étaient torturées, étaient tuées et tout. Moi, j'ai été vraiment inspiré par des femmes que j'ai connues pendant la Révolution.
Alors, aussi, pour celui Asma, dans le réel.
Exactement. Ouais. Asma, c'était vraiment une inspiration de 3 ou 4 femmes courageuses, incroyablement courageuses, que j'ai connues.
Je vous cite Alaïla Assouani, puisque vous parlez de ces fameux tests de virginité qui ont été faits sur des manifestantes, en réalité des quasi-viols hein, collectifs qui étaient destinés à détruire en fait ces
détruire moralement, briser. Parce que ça, c'est un peu... C'est arrivé en Tunisie, c'est arrivé en Égypte, c'était toujours comme ça, parce que la mentalité du pouvoir ne sont pas confortables avec l'idée des femmes révolutionnaires, pas seulement pour des raisons politiques, mais pour des raisons sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais une autre conversation chez moi comme dentiste avec un autre général.
Décidément.
Il m'a dit, je pense qu'il était colonel de toute façon, parce que il m'a dit qu'il était en train, c'est bien de battre les manifestantes. Et j'ai dit, pourquoi monsieur? Il a dit, parce que ce sont des prostituées. Et j'ai dit, quoi? Est-ce que vous permettez à votre fille ou à votre femme de participer à une manifestation politique? Et j'ai dit, c'est pas question de ma permission. Si elle décide, elle décide. Et lui, il me dit, avec tout mon respect, moi je pense que la femme qui quitte, voilà la mentalité, qui quitte sa maison et sa cuisine et ses enfants pour se manifester, c'est une prostituée. Alors je trouve ça, c'est terrible.
Alors je vous cite Alaïla Assouani, l'officier s'approcha d'elle qui était allongée par terre, puis il dit d'une voix calme, « Tu vois, Asma, à quel point tu ne vaux rien. Tu n'es rien, Asma, rien du tout. Tu le sais maintenant. N'essaie pas de t'attaquer à tes maîtres, compris ?» Quand vous attaquez un personnage de femme, il y a plus d'enjeux, justement, compte tenu de ce que le monde est en train de devenir pour les femmes. Oui. Il y a plus d'enjeux que quand vous bâtissez un caractère d'homme.
Oui, parce que le pouvoir, il a toujours une tendance de briser la femme, d'humilier les femmes. Dans une société arabe, si vous arrivez à faire des tests de virginité pour les filles, ça veut dire que les filles seront honte d'eux-mêmes. Et c'est ça exactement le but.
Alors en même temps, il y a un autre personnage de femme, Nouran, donc la présentatrice à la télévision, qui va devenir la voix de la répression, hein, finalement, qui est très pieuse, mais qui se marie à plusieurs époux respectifs, qui sont à chaque fois des marches vers le pouvoir. D'ailleurs, elle devient directrice de la chaîne puisqu'elle a épousé le propriétaire, hein, ça fait assez vite, et elle oblige toutes les autres présentatrices à se voiler à leur tour. Alors, il fallait montrer aussi à côté de Asma et ses beaux personnages de femmes aussi cette collaboration féminine avec le pouvoir.
Oui, mais c'est le même problème parce que si vous ne voyez pas la femme comme un être humain, si vous voyez la femme comme une créature pour faire plaisir aux hommes. Il y a deux réactions, ou bien les femmes vont se révolter, ou bien, comme Noran, la femme va recevoir ce logique, ce raisonnement, et va l'utiliser.
Et ces personnages, il y en a beaucoup. Vous avez des poupées comme Balzac, la comédie humaine, pour vous repérer, ou un mur de post-it
Non, je n'arrive pas à... Non, je me souviens très bien de mes personnages, et parfois j'aime mes personnages, mais parfois je les déteste, et parfois je comprends ce qu'ils font, parfois je pense qu'ils sont en train de faire des bêtises, mais... Je ne peux rien changer.
Vous les laissez agir.
Non,
absolument. C'est Pirandello, là. On parlait tout à l'heure. C'est ces personnages en quête d'auteur qui viennent vous voir.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé l'Automobile Club par des personnages qui ont décidé de visiter l'auteur. C'est pas vraiment 100% imaginaire, ça. Vous voyez, parce que ça m'arrive que vraiment le personnage fait des choses que je trouve pas vraiment très bien.
Mais parce que c'est ces personnages qui viennent dans votre cabinet dentaire aussi, c'est ça? Mais non, mais enfin, sérieusement, quand on est confronté à des gens qui vous disent de telles horreurs,
ou
des manifestants qui viennent vous confier des choses,
oui,
au fond, ils sont là. C'est-à-dire
ils sont là, oui, absolument. Ouais. Mais vous comprenez mieux les complications, les couches de l'être humain, vous voyez. Alors, ce monsieur, il a besoin, par exemple, celui qui torture, il a besoin de voir, d'imaginer, de présenter les victimes comme des ennemis. Il a besoin.
Pour ne pas
s'il arrive à voir la victime comme une étudiante, il peut plus torturer.
Ouais. Vous n'écrivez pas de roman actuellement?
Non, j'ai toujours besoin, après finir un roman, j'ai besoin de quelques mois pour sortir psychologiquement du roman. Alors j'ai écrit un livre sur la dictature qui va sortir en anglais. Il s'appelle « Le syndrome de la dictature ». Le syndrome, c'est une forme de maladie où il y a les mêmes symptômes qui se répètent toujours, alors la maladie devient symptôme. Alors il s'appelle « Le symptôme de la dictature ». J'ai fini ce livre et je vais commencer mon nouveau roman qui va... ça sera un roman sur Alexandrie.
Que vous vouliez faire en fait avant ?
Exactement, ouais, exactement. Ouais. Je voulais faire avant, et j'ai commencé, mais à un moment donné, j'ai senti que je me sens pas dans ce roman. Je vais faire l'autre, je vais faire ce roman.
Et alors, ce livre, cet essai que vous écrivez sur la dictature est inspiré, c'est ce livre-là qui est inspiré par Discours de la servitude volontaire de la Boétie?
Oui, je commence par la Boétie. Ouais. Parce que lui qui a présenté pour la première fois l'idée que la dictature, c'est pas seulement le problème du dictateur, parce que, comme individuel, c'est impossible que vous vous imposez sur un peuple. Mais le peuple, à un moment donné, il est préparé pour accepter la dictature, ou bien parfois il a besoin de la dictature.
On peut le citer, hein. C'est vrai qu'il comprenait pas que, et là on cite la Boétie, 1576, que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne.
Oui,
vous avez compris alors pourquoi les peuples fonctionnent comme ça?
C'était la première fois, pour moi c'est la première fois que quelqu'un a présenté vraiment cette idée. Mmh. Vous voyez, je commence le livre par cette idée, parce que cette idée est très importante. Mmh. On présente tout le temps... que le peuple, le peuple a été victimisé toujours par la dictature, mais lui, le peuple a accepté. Alors, ça, c'est la Boétie. C'est lui qui a expliqué pour la première fois, et très tôt.
Alain Lassoigny, dernière question. Ce roman se termine mal, comme l'histoire de la Révolution 2011 s'est mal terminée. Êtes-vous quand même plus optimiste que votre fiction?
Absolument. Merci pour la question, parce que vous comprenez très bien, parfois on comprend pas ça. C'est que moi, il y a une distance entre moi et le roman. C'est que la littérature est un art avec lequel vous pouvez dire ce que vous voulez, mais d'une manière très différente. C'est que moi, je suis optimiste, mais le roman n'est pas optimiste. Mais le roman, pourquoi ne pas optimiste? Pour provoquer, pour choquer les lecteurs, pour poser les questions aux lecteurs. Est-ce que la révolution, c'est fini pour la révolution ou quoi? Alors si les lecteurs vont dire non, c'est pas fini. C'est exactement ce que je voulais.
Merci beaucoup, Alain Lassoigny. Je rappelle donc les références de votre livre. Alain Lassoigny, j'ai couru vers le Nil. C'est traduit de l'arabe par Gilles Gauthier. Merci à vous. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Anne Depelchin à la réalisation, à la technique Olivia Branger. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière infinie sur franceculture.fr. 7h avec l'écrivain égyptien Alaa El Aswany.